Très bien. Eh bien, pour la deuxième séance de ce séminaire qui suit le cours, nous allons entendre un exposé dont le titre initial devait être « Imagination et supposition ». La supposition, je crois que je dois en parler dans un prochain cours. Mais finalement, ce n'est pas le sujet qu'a retenu Margherita Arcangeli, puisqu'elle va nous parler de l'imaginer de l'intérieur, qui est un thème qui nous concerne aussi, donc je suis très très content d'entendre cet exposé. Margherita est maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et ses travaux concernent la philosophie de l'esprit, l'esthétique. Elle avait fait une thèse sur l'imagination et la supposition, qui est devenue un livre en anglais chez Routledge, c'est ça ?
Oui.
Sur la supposition et l'imagination, enfin, c'est un titre un peu plus compliqué. Et elle travaille sur beaucoup de thèmes qui sont pertinents notamment par rapport au cours que je fais, mais qui nous intéressent de façon évidemment beaucoup plus large. Et elle conduit aussi un séminaire en ce moment sur le sublime. Un certain nombre d'entre vous peut-être connaissent ou reçoivent les annonces, sinon il faut demander.
Absolument.
Et donc je me réjouis beaucoup de t'entendre, Margherita.
Merci beaucoup, François, pour cette invitation, vraiment. Je suis très contente. Finalement, j'ai décidé de parler du imaginer de l'intérieur. Donc, le philosophe Volheim a dit « Je ne pourrais pas faire confiance à cette phrase, imaginer de l'intérieur, si galvaudée en philosophie. » Et en effet, cette expression est très utilisée en philosophie. Ça suffit de faire un petit parcours dans le débat, pas seulement sur l'imagination, justement, pour voir qu'il s'agit d'une notion clé dans, par exemple, le débat sur l'identité personnelle, le contenu des expériences perceptives, la sémantique de l'imagination, les émotions dans la fiction, la mémoire et l'empathie. Donc on a vraiment une notion qui est utilisée dans différents débats, mais surtout qui est utilisée avec un certain poids, c'est-à-dire vraiment, elle essaye de clarifier des choses importantes dans ces débats. Mais donc, si cette expression, l'expression d'imaginer de l'intérieur, a ses poids, est-ce que nous avons une notion bien définie, en fait ? Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer. Et c'est peut-être aussi le scepticisme de Volheim, en fait. Le problème, ce n'est pas que cette expression est très utilisée, mais qu'elle est mal utilisée, ou mal interprété. Je vais essayer de vous montrer en fait qu'on devrait distinguer trois notions d'imaginer de l'intérieur. Donc on a d'abord une notion qui est liée à une question d'application du soi dans l'imagination. Après, on a une interprétation phénoménologique large de cette notion, mais aussi une interprétation phénoménologique étroite. Et en espérant avoir le temps, j'aimerais vous montrer qu'une fois qu'on a bien clarifié donc cette notion et on a distingué parmi ces trois en fait, notions, on peut revenir au débat où la notion d'imaginer de l'intérieur est utilisée et en fait enrichir ces débats. Et j'aimerais prendre le débat sur l'empathie comme cas d'étude en fait, pour montrer cette richesse qui apparaît une fois qu'on a une belle notion d'imaginer de l'intérieur. Mais à nouveau, j'espère avoir le temps de faire ça. Mais donc, commençons juste par clarifier cette notion. Et le point de départ pour mieux comprendre la notion d'imaginer de l'intérieur, en fait, c'est de se rendre compte que cette notion est liée à un aspect très important de notre imagination, c'est-à-dire sa perspectivalité. Le fait qu'à travers l'imagination, nous, on change en fait de perspective. C'est une chose d'ailleurs que François a déjà rappelé à plusieurs reprises pendant son cours. Et là, j'aimerais faire un détour par le cinéma pour mieux clarifier en fait cet aspect de la perspectivalité de l'imagination et comment elle est liée à la notion d'imaginer de l'intérieur. Donc là, je vous propose un passage d'un film de Kaufman. Je veux juste en finir. I'm thinking of ending things, en anglais, de 2020. Malheureusement, le passage est assez court et peut-être assez dense, mais il est très intéressant, vous allez voir, parce que justement, il nous montre des choses dont on parlera tout à l'heure. Alors, c'est en anglais, mais je vais le traduire en français. C'était plus compliqué pour moi de mettre la traduction en français directement. Juste pour vous donner le cadre, donc on a cette jeune fille, qui est d'ailleurs celle que vous voyez dans l'affiche du film, qui est en train de parler avec les parents de son compagnon. Elle est en train de raconter que, en fait, elle aime faire de la peinture dans son temps libre. Et donc, elle dit « Je fais surtout des paysages. J'essaie d'imprégner mon travail avec une sorte d'intériorité. Comme ces tableaux de cette fille assise dans un champ qui regarde une maison. Le monde de Christina, de Wyeth, oui, exactement. Mais sans personne. Hein ? Comment une image d'un champ peut être triste sans qu'une personne triste qui apparaisse triste soit dans les champs ? Comment cela est supposé me faire ressentir quelque chose s'il n'y a pas une personne dans la scène qui ressent quelque chose ? Mais pense à toi-même comme la personne qui regarde la scène. Mais je dois voir moi-même dans la scène. Bah, si tu étais là, tu ne te verrais pas, n'est-ce pas ? Bah, si je regardais en bas, je ne suis pas un fantôme. Je veux dire, si tu étais là et tu regardais devant toi sans regarder en bas, tu verrais la scène et tu ressentirais quelque chose. Donc, à nouveau, je répète, c'est très dense, mais très évocateur. Et j'aimerais souligner quelques éléments. Déjà, on a l'élément de l'intériorité. Donc, on ne parle pas d'imagination, évidemment, mais ça a un lien, évidemment. Et la question, donc, se pose de cette imagination, de cet imaginé de l'intérieur. Et après, il y a deux aspects importants. Un aspect, c'est cette question, le débat, c'est en fait sur comment le sujet est représenté dans la scène. Si il est représenté explicitement dans la scène ou pas, non ? Pensez à vous comme la personne qui regarde la scène ou comme partie de la scène. Et après, l'autre aspect important, c'est aussi éprouver des sensations, peut-être des émotions. Donc tout cela, bon, voilà les tableaux dont il est question. Donc tout cela, je pense, nous amène à voir que quand on parle de perspectivalité de l'imagination, on doit distinguer deux dimensions de perspectivalité. Donc, d'une part, on a la question de comment le soi, imaginé, est impliqué. On peut appeler ça la perspectivalité des sois imaginés. Mais de l'autre côté, on a la question de ce que le sujet imaginé ressent ou expérimente. Et donc là, on peut parler de la perspectivalité des expériences imaginées. Donc, vous voyez, donc on a ces deux dimensions différentes liées quand même à la dimension de la perspectivalité. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, la notion d'imaginer de l'intérieur se lie différemment à ces dimensions de la perspectivalité de l'imagination. Et on va d'abord commencer avec la perspectivalité des soi imaginés, et après, on passera à la perspectivalité des expériences imaginées. Donc, commençons avec les soi. Et essayons de montrer une première interprétation, une première signification de la notion, l'expression imaginée de l'intérieur. Et commençons avec des exemples. C'est la meilleure manière, en fait, de s'y mettre. Là, c'est un passage célèbre du philosophe Wendler, où, justement, il introduit la notion d'imaginer de l'intérieur. Nous regardons l'océan d'une falaise. L'eau est rude et froide, mais il y a des nageurs qui chevauchent les vagues. « Imagine nager dans l'eau, » dit mon ami, « et je sais quoi faire. » « Brrr, » dis-je, en imaginant le froid, le goût salé, l'attraction du courant, et ainsi de suite. S'il avait dit « Imagine toi-même nager dans cette eau », j'aurais pu aussi faire autrement, en imaginant moi-même en train d'être ballotté, un corps maigre se balançant de haut en bas dans les déchets mousseux. Donc, vous voyez ici, on a un petit peu le débat qu'on a vu, en fait, à travers la petite scène du film, non ? La question si le sujet est représenté dans la scène ou pas. L'idée, c'est que je peux m'imaginer nager, mais en fait, c'est moi-même qui fais les mouvements, ou je peux me voir d'un point de vue extérieur et je vois moi-même dans la scène, en fait, qui est en train de nager. Et donc, on peut appeler, en fait, imaginer de l'intérieur le premier cas, où en fait, c'est moi qui fais le mouvement, c'est moi qui est en train de nager dans ces sens-là, et imaginer de l'extérieur, quand je prends ce point de vue et je me regarde, en fait, de l'extérieur. Un autre exemple. Un autre philosophe, en fait, a évoqué à nouveau la même distinction. Goldie. Emma anticipe par son imagination un important entretien d'embauche prévu dans une semaine. Elle sait que l'un des membres du jury est un homme particulièrement agressif et désagréable, qui ne manquera pas de poser des questions sans fin, destinées à montrer ses propres connaissances plutôt que tester les siennes d'Emma. Et Goldie souligne que, aussi dans ces cas, on peut effectivement avoir la double perspective, dans le sens que Emma peut essayer d'imaginer ce qu'elle pensera, ressentira et fera lors de l'entretien, mais d'une part, elle peut imaginer les événements se déroulant de l'intérieur, en prenant vraiment le point de vue d'elle-même devant, par exemple, les membres du jury, ou elle peut prendre une position externe, donc imaginer de l'extérieur, où elle fait partie en fait, du contenu de ce qu'elle imagine. Par exemple, elle peut prendre, je ne sais pas, le point de vue derrière cet homme particulièrement agressif. Troisième exemple, qui va introduire des notions qui vont nous être utiles. Aussi Christopher Peacock, un autre invité d'ailleurs ici au Collège de France par François Recanati, a souligné que la phrase « imaginez être assis sur un cheval » est ambiguë. On a deux interprétations possibles. J'imagine être assis sur un cheval ou j'imagine moi-même être assis sur un cheval. Dans le premier cas, on peut dire donc que le soi est implicitement impliqué, c'est-à-dire qu'il fixe le point de vue de la scène dans le monde imaginaire. Dans le deuxième cas, le soi est explicitement impliqué, c'est-à-dire qu'il est présent dans la scène imaginée. Donc voilà, on a un premier sens d'imaginer de l'intérieur, par opposition à imaginer de l'extérieur. Donc imaginer de l'intérieur serait cette idée d'imaginer où le soi est impliqué de manière implicite. Là, vous avez une représentation visuelle en fait, de ce cas. Vous voyez, donc là, on a le cas où le soi est représenté de manière implicite, le premier cas, à gauche. Donc, effectivement, c'est moi-même qui fixe le point de vue. C'est à nouveau exactement ce qu'il y avait dans le petit passage du film. L'idée, elle poussait en fait son interlocuteur en disant « Mais si toi, tu es là et tu regardes la scène, tu regardes la scène, tu ne vois pas toi-même. » Mais dans l'autre cas, à droite, vous voyez, là, c'est par contre une représentation où le soi est explicitement représenté. Donc, on pourrait dire « Imaginez de l'intérieur d'un côté, imaginez de l'extérieur de l'autre côté. » J'espère que c'est bon jusque-là. Là, je vais introduire une notion très chère aux philosophes de l'esprit qui me sert pour faire la transition entre cette première notion d'imaginer de l'intérieur qu'on vient de voir et les deux autres qui vont suivre. Cette distinction est la distinction entre attitude et contenu. Alors, en gros, sans rentrer dans les détails compliqués du philosophe, l'idée c'est que, en fait, l'attitude et le contenu sont deux aspects d'un état mental. L'idée c'est que l'attitude est comment un état mental représente, alors que le contenu est ce que l'état mental représente. Donc là, vous avez des exemples, vous avez différents sujets qui entretiennent différents ou les mêmes contenus par les biais de différentes attitudes. Donc, croire, craindre, avoir peur, vouloir, désirer, voir. Donc, vous voyez, prenons les deux exemples, les deux premiers. Là, on a en fait le même contenu qu'une pieuvre nage alentour, mais les deux sujets font des choses, on pourrait dire, différentes avec ces mêmes contenus. Donc, Anna croit qu'une pieuvre nage alentour. Alors, souvent, on dit que la croyance, en fait, nous pose les choses comme vraies. Donc, l'idée, c'est que pour Anna, c'est un fait qu'une pieuvre nage alentour. Sam, c'est débattable s'il croit aussi, OK, qu'une pieuvre nage alentour. Mais ce qui est important, là, c'est qu'il est en train de craindre qu'une pieuvre nage alentour. Donc, en fait, il est en train d'apprendre ce contenu avec une certaine force qui lui dit qu'il y a, en fait, une valeur négative et qu'il doit faire quelque chose, en fait, pour essayer de surmonter cette peur, par exemple, s'enfuir. Je dis que c'est débattable parce que peut-être que c'est un état de l'imagination, en fait, qui cause cette émotion, on pourrait dire. Donc, ce n'est pas dit, en fait, qu'il croit en même temps qu'une pieuvre nage alentour. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, il y a une force différente selon l'attitude qu'on prend pour saisir un certain contenu. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela alors qu'on était en train de parler d'imaginer de l'intérieur ? Parce qu'en fait, si on revient à la distinction d'imaginer de l'intérieur et de l'extérieur, qu'on a appris comme distinction qui a à faire d'un côté avec les états imaginatifs qui représentent implicitement le soi et de l'autre les états imaginatifs qui représentent explicitement le soi, on peut voir qu'en fait, cette distinction est une question qui relève du contenu des états de l'imagination. La question est de savoir si le soi est représenté explicitement ou implicitement dans le contenu de mon état mental. Mais l'idée, c'est que les états imaginatifs peuvent être de l'intérieur ou plus généralement perspectivaux, un autre sens concernant les attitudes qui peuvent être recréées dans l'imagination. Et dans un instant, je vais vous expliquer ce qu'on entend par recréer dans l'imagination. Donc là, on va voir une deuxième signification de la notion d'imaginer de l'intérieur, mais surtout on passe de l'autre côté à l'autre dimension de la perspectivalité que j'évoquais au début, celle qui a à faire avec ce que le sujet ressent, plutôt que ce qu'elle a à faire avec la question de la représentation du soi. Revenons à l'exemple de la falaise océanique. Dans cet exemple, Wendler n'est pas en train seulement de nous montrer qu'on peut imaginer justement, par exemple, imaginer nager de deux manières différentes. Donc, d'une part, je répète, je fixe le point de vue, c'est moi qui est en train de faire les mouvements ou je me vois faire les mouvements. Mais cet exemple, en fait, est très riche aussi au niveau des expériences qu'on peut avoir quand nous sommes en train d'imaginer cette scène. Donc, il part, par exemple, du froid, le goût salé, l'attraction du courant, être ballotté, le corps maigre se balançant de haut en bas. Donc, c'est vraiment riche au niveau des expériences qu'on peut avoir. Wendler donne aussi d'autres exemples, à nouveau, pour montrer cette distinction du soi implicite ou explicite. Il nous parle de manger un citron, d'imaginer être torturé, siffler dans les noirs. Mais même dans ces autres exemples, en fait, on peut souligner aussi qu'on a différentes expériences qui sont détaillées. Le goût acide, les visages pincés, le membre déformé, la sensation de lèvres plissées, la distance incertaine mais s'est rapprochant. Et en fait, c'est exactement en se penchant sur ça qu'on peut voir et déceler la nature récréative de l'imagination. Cette idée, en fait, déjà évoquée par François, que l'imagination peut simuler, peut recréer d'autres états mentaux. Là, je vous propose une citation de Karen Ravenscroft, qui, dans un célèbre livre, Recreative Minds, ont introduit la notion d'imagination récréative, mais il faut bien souligner que l'idée de l'imagination en tant que simulation est bien plus ancienne. En fait, elle peut remonter au moins à Husserl, mais peut-être même avant. Mais donc, je vous propose ces passages où Karen Ravenscroft décrive ce que c'est pour eux l'imagination récréative. La projection imaginative implique la capacité d'avoir, et en bonne mesure de contrôler le fait d'avoir, des états qui ne sont pas des perceptions ou des croyances ou des décisions ou des expériences de mouvement de son corps, mais qui sont de diverses manières comme ces états, comme eux de manière à permettre aux états possédés par l'imagination de mimer et relativement à certains buts de remplacer les perceptions, croyances, décisions, expériences de mouvement. C'est ce que nous appelons des états d'imagination recréative. Donc l'idée, c'est que l'imagination est capable de recréer, simuler, mimer différents états mentaux, ou plutôt attitudes, vu ce que j'avais dit tout à l'heure, donc des perceptions, croyances, ou, comme j'ai déjà évoqué le mot, des expériences. Et l'idée, c'est que vraiment, on fait comme si on était dans un état de perception, croyance mouvement. Donc, c'est pour cela qu'on peut aussi appeler l'imagination récréative l'imagination expérientielle. L'idée, c'est que nous sommes en train de recréer, simuler des expériences. Mais donc, il faudrait dire un mot sur la notion d'expérience, au-delà du domaine de l'imagination. Là, juste brièvement, les philosophes aiment associer l'idée d'expérience à le fait qu'il y aurait ce caractère phénoménal en fait, qui décrive les expériences. Donc l'idée, c'est qu'être dans une expérience a ce caractère phénoménal, c'est-à-dire il y a un effet que cela fait d'avoir une certaine expérience, ou c'est que l'on ressent quand on a une expérience. Donc, par exemple, il y a une certaine sensation quand on marche dans la neige, on voit la blancheur de la neige, on entend les crépitements des marches. Il y a aussi une sensation quand on perçoit la froideur et le déplaisir qu'elle peut causer, d'être conscient des mouvements dans la neige et l'effort qu'on fait. Et puisque les philosophes aiment quand même aller, disons, du particulier au général, l'idée c'est qu'en fait on peut généraliser et avoir des types d'expériences. Donc l'idée c'est qu'on aurait des expériences qu'on peut appeler expériences sensorielles, c'est-à-dire les expériences visuelles, tactiles, auditives, olfactives et gustatives. Évidemment, chacune de ces expériences a ses particularités au niveau phénoménal. Une expérience visuelle est différente d'une expérience tactile. Mais l'idée, ce serait que quelque chose quand même lie toutes ces expériences, et c'est pour cela, au niveau phénoménal, je répète, et c'est pour cela qu'on peut les appeler expériences sensorielles et les considérer plus ou moins comme un tout. Puis on aurait des expériences corporelles. Les expériences, par exemple, que l'on a de nos actions, ce qui a été appelé, par exemple, le sentiment d'agentivité. Les expériences thermales, que je viens d'évoquer, algédonique, la sensation de plaisir ou douleur, proprioceptive ou kinesthésique, la conscience de la disposition spatiale de notre corps. Et à nouveau, chacune de ces expériences a sa spécificité, mais il y a quand même quelque chose de commun, et donc on peut parler d'expériences corporelles. Puis en fait, on peut faire un petit pas, aller un peu plus loin, et avoir une notion élargie d'expérience. On pourrait penser que même au moins certaines attitudes cognitives, comme par exemple les croyances, au moins les croyances occurrentes, ont aussi une phénoménologie et on peut aussi les considérer comme des expériences. Et en effet, certains philosophes ont soutenu ça. Ils reconnaissent l'existence d'une phénoménologie caractéristique de la croyance. Donc dans ce cas-là, on aurait en fait une notion élargie d'expérience. Je suppose que quelqu'un parmi vous est en train de penser que j'oublie quelque chose, que là, on devrait ajouter une autre, une quatrième catégorie. Et c'est quoi ? Les émotions. Les émotions sont typiquement considérées clairement comme ayant une phénoménologie. Je veux dire, très souvent, en fait, on identifie les émotions par la phénoménologie qu'ils causent. Mais pourquoi je ne les ai pas mises là ? Parce qu'en fait, le débat parmi les philosophes est assez compliqué. L'idée, c'est à comprendre si effectivement là, on aurait une quatrième catégorie ou si en fait, la catégorie des émotions est à comprendre comme en fait composée ou on peut la réduire à un jeu entre en fait, les trois autres catégories. Peut-être en fait, c'est sensoriel, plus corporel, plus cognitif qui nous donne les émotions. En fait. Donc, c'est pour cela que je mets de côté les émotions, mais évidemment, je suis bien consciente que les émotions font partie clairement de notre vie phénoménologique. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler d'imagination. Donc là, c'est vraiment, là, on est en train de parler d'expérience. Donc revenons en fait à l'imagination, parce que c'est de l'imagination de l'intérieur qu'il s'agit de parler ici. Donc peut-être vous avez compris où je veux en venir. Donc, j'ai parlé de cette imagination récréative comme une imagination expérientielle. Donc, l'idée, c'est exactement ça. C'est qu'en imaginant, je peux recréer les différentes typologies d'expériences. Donc, je peux, par exemple, en imaginant voir un coucher de soleil sur la mer, recréer une expérience visuelle. En imaginant nager, je pourrais, par exemple, recréer une expérience proprioceptive. Ou si, à nouveau, on adopte la notion élargie d'expérience, je peux en imaginant croire que, par exemple, la Troisième Guerre mondiale a éclaté. Là, dans ces cas, je serai en train de recréer une expérience doxastique. Et une chose que j'ai déjà évoquée, mais j'aime bien la souligner, donc là, c'est que vous voyez, là, on a quitté la dimension du contenu et on est plutôt de la dimension de l'attitude. Parce que là, c'est un sens attitudinal de l'imagination expérientielle. En fait, ce qui change, c'est qu'on donne une force différente au contenu. L'idée, c'est que l'imagination, en tant qu'attitude, peut en fait se plier et mimer des aspects attitudinales d'autres attitudes, d'autres expériences, en l'occurrence. Et quel est le lien de tout cela avec l'imagination de l'intérieur? Donc, on avait vu, non? Je vous avais proposé l'exemple du cavalier, et on a vu une première notion, une première signification de imaginer de l'intérieur, comme l'idée qu'on a le soi impliqué de manière implicite d'un côté, explicite de l'autre, et imaginé de l'intérieur, en fait, coïncide avec l'implication implicite du soi. Mais là, je suis en train de proposer qu'en fait, peut-être on a une autre notion d'imaginer de l'intérieur, où l'idée, c'est qu'imaginer de l'intérieur, c'est recréer des expériences. Et là, vous voyez, en fait, ce serait d'une certaine manière orthogonal. Là, dans l'exemple, c'est une expérience visuelle qui est recréée. Dans les deux cas, d'ailleurs. Donc, il y aura une orthogonalité, parce que dans les deux cas, on a la même, entre guillemets, la même typologie d'expérience, c'est de la vision, mais le soi peut être impliqué de manière implicite ou explicite. Et je pense que ça vaut de même si on prend l'autre exemple, l'exemple de l'entretien d'embauche. Donc, même là, on a vu, non, Emma peut essayer d'imaginer soit de l'intérieur, soit de l'extérieur la scène. Mais à nouveau, il y a aussi ce côté de récréation d'expérience, ce qu'elle pensera, ressentira et fera. Et je pense que cette interprétation d'imaginer de l'intérieur, on la retrouve par exemple chez Peacock. Peacock nous donne cette définition de l'imagination en général. Imaginer quelque chose, c'est toujours au moins imaginer de l'intérieur, être dans un certain état conscient quelconque. Donc, vous voyez, là, il utilise « imaginer de l'intérieur ». On pourrait penser qu'il fait référence à cette idée de représentation du soi de manière implicite, mais je pense que plutôt là, on a un deuxième sens d'imaginer de l'intérieur qui, à nouveau, je répète, revient à parler de l'imagination recréative en général, de l'imagination expérientielle. Donc là, « imaginer de l'intérieur », ça veut dire « recréer une expérience ». Et juste une petite remarque, c'est une alternative à l'interprétation reçue en fait de la thèse de Peacock, parce que souvent il est interprété comme faisant référence plutôt à une dimension liée au contenu qu'à l'attitude. Et c'est une interprétation que nous avons proposée, Jérôme Dokic et moi, dans un papier que je vais citer tout à l'heure. Mais au-delà de ça, donc, essayons de résumer ce que l'on a vu jusqu'à présent. Donc, premièrement, imaginer de l'intérieur peut signifier imaginer en impliquant implicitement le soi. Mais j'essaie de vous montrer qu'on a au moins un deuxième sens. Il existe un sens phénoménologique large d'imaginer de l'intérieur qui coïncide avec l'imagination expérientielle. Là, une autre petite parenthèse, il y a une belle question qu'on pourrait se poser, si l'imagination expérientielle n'est rien d'autre que l'imagination, ou bien l'inverse, c'est-à-dire que l'imagination coïncide avec l'imagination expérientielle, ou si en fait notre notion d'imagination est beaucoup plus large et l'imagination expérientielle est seulement un sous-ensemble. Je ne vais pas traiter de ça ici, mais c'est effectivement une question qu'on pourrait se poser en général si on veut théoriser sur l'imagination. Ce qui est pour moi intéressant ici, c'est plutôt de garder et de comparer ces deux significations d'imaginer de l'intérieur. Donc, vous voyez, elles ne coïncident pas. On a une orthogonalité, évidemment, ici. Donc, d'une part, on a, disons, l'imagination expérientielle. Et imaginer de l'intérieur peut faire référence à l'imagination expérientielle en général, ou imaginer de l'intérieur peut faire référence seulement à un sous-ensemble de l'imagination expérientielle, où le soi est impliqué de manière implicite. Mais attention, il y a un troisième sens. Pour voir ce troisième sens, Revenons à la notion d'expérience. Donc, quittons pour un instant le domaine de l'imagination. Et je vous avais montré que les philosophes distinguent entre les expériences sensorielles d'un côté et les expériences corporelles de l'autre. En fait, il y a une autre terminologie qui a été utilisée qui capture bien en fait, la distinction entre expérience sensorielle et expérience corporelle. C'est-à-dire l'idée d'expérience externe d'un côté, expérience interne de l'autre. Alors, voyons les expériences internes plus en détail pour mieux comprendre les expériences externes aussi. Donc, là, vous avez par exemple le sentiment d'agentivité ou la proprioception ou une expérience agédonique. Donc, l'idée, c'est que toutes ces expériences, proprioceptives, agentives, agédoniques, sont typiquement considérées comme des moyens spécifiques d'obtenir de l'information impliquant la conscience de notre propre corps dès l'intérieur. Elles sont caractérisées par le fait qu'elles doivent être à propos d'un état, corporel ou mental, de leur propre sujet. Donc l'idée que c'est dans le cas des expériences internes, ces rapports entre sujet et objet est interne. Parce qu'on le répète, en fait, l'idée c'est que le rapport c'est entre le sujet et un état du sujet lui-même, soit corporel ou soit mental. Mais pas toutes les expériences, en fait, impliquent une telle relation interne entre le sujet et l'objet de l'expérience. Par exemple, là, je regarde cette bouteille, je suis le sujet, la bouteille est l'objet de mon expérience, et la relation se fait à l'externe. C'est pour ça que, donc, là, on a tendance à les appeler les expériences externes. Avec cette distinction dans la tête, on peut revenir à l'imagination. Prenons l'exemple de Wendler d'imaginer siffler dans le noir. En fait, on peut faire différentes choses d'un point de vue imaginatif quand on essaie d'imaginer siffler dans le noir. Dans un cas, par exemple, on peut essayer de recréer une expérience auditive. Dans un autre cas, on peut essayer vraiment de recréer la sensation de lèvres plissées. Évidemment, on peut faire les deux. Hein. Je veux dire, là, évidemment, je simplifie. Parce que quand on imagine, en fait, on imagine un tas de choses. Donc, effectivement, normalement, nos exercices imaginatifs sont très complexes, en fait. Et on recrée plusieurs choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut, effectivement, aussi séparer ce qu'on peut faire. Donc, d'un côté, on peut recréer une expérience auditive. De l'autre, on peut recréer une expérience proprioceptive. Et donc, vu la distinction qu'on vient de voir, on peut dire que dans le premier cas, ce que je suis en train de recréer, c'est une expérience externe, parce qu'une expérience auditive est une expérience externe. Le rapport entre sujet et objet se fait à l'externe. Alors que dans le cas de recréer une sensation de lèvres plissées, qui est de la proprioception, l'idée, c'est que là, on a une expérience interne. Et donc, dans le deuxième cas, ça sera une expérience interne qui est recréée. En suivant une terminologie adoptée par Jérôme Dokich, je veux dire avec cette signification, parce que par d'autres auteurs a été utilisée de manière différente. Donc, je vous propose d'appeler imagination objective quand nous sommes en train de recréer une expérience externe et imagination subjective quand nous sommes en train de recréer une expérience interne. Et là, ce que j'aimerais faire aussi, en revenant aux exemples de Wendler, c'est de vous montrer vraiment la richesse. Je veux dire, là, on avait vu ces exemples. Ces exemples, d'une part, sont censés nous montrer ces différences d'imagination quand le soi est représenté d'une manière implicite ou explicite. Mais comme je vous avais détaillé, ils nous montrent aussi différentes expériences qu'on peut recréer dans l'imagination. Et là, avec la distinction subjectif-objectif, en fait, on peut voir que vraiment, à chaque exercice de l'imagination, on peut avoir des choses différentes. On peut recréer, par exemple, peut-être des expériences externes ou des expériences internes. Et pour mon propre but, ce qui est très important, c'est de montrer que tout cela, en fait, est orthogonal à la distinction entre représentation du soi implicite ou explicite. Les deux distinctions ne coïncident pas. parce qu'on peut, par exemple, justement, avoir la récréation d'une expérience subjective, mais dans un cas où le soi est représenté implicitement ou explicitement. Et de même pour la récréation d'une expérience objective. Et donc, quel est mon point? C'est de vous montrer que là, on a un troisième sens, en fait, d'imaginer de l'intérieur. L'idée, c'est que imaginer de l'intérieur ici va coïncider avec l'imagination subjective. Donc, imaginer de l'intérieur, ça serait recréer, en fait, des expériences internes. Donc, vous voyez, c'est un sens phénoménologique étroit, parce que le sens large, en fait, était équivalent à imaginer expérientiellement, donc recréer tout à des expériences. Là, on se focalise seulement sur les expériences internes. Donc, vous voyez, pour reprendre le tableau de Wyeth, qui nous a été utile, donc, j'ai essayé de vous montrer non, qu'on a au moins deux dimensions de perspectivalité de l'imagination en général, je veux dire, indépendamment de la question d'imaginer de l'intérieur. Donc, on a la perspectivalité des soi imaginés, et les soi imaginés peuvent être impliqués de manière explicite ou implicite. De l'autre côté, on a la perspectivalité des expériences imaginées, et donc, en général, on peut utiliser cette notion d'imagination expérientielle comme récréation d'expérience. Et plus précisément, on peut voir que les sujets peuvent avoir des expériences externes ou internes. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la notion d'imaginer de l'intérieur, effectivement, peut faire référence à différentes choses. Elle peut faire référence à imaginer où le soi est seulement représenté, impliqué de manière implicite. Elle peut faire référence à l'idée qu'en fait, on est en train de recréer tout tas d'expériences, indépendamment si elles sont externes ou internes, ou on peut se référer seulement en fait, à la récréation d'expériences internes. Donc là, on a en fait trois différentes interprétations de la notion d'imaginer de l'intérieur. Et si vous allez vraiment vous plonger dans les débats où la notion d'imaginer de l'intérieur est utilisée, vraiment, une définition est vraiment difficile à trouver. Je veux dire, parfois, vraiment, les philosophes pensent que parler d'imagination de l'intérieur, c'est très évocateur, mais ils ne donnent pas vraiment de définition. Et si vous allez vraiment dans les détails, parfois, vous pouvez trouver qu'on confond en fait ces niveaux et que c'est bien de les garder à l'esprit. Donc, comme je vous disais, j'aimerais en fait vous montrer qu'une fois qu'on a cette analyse plus riche en fait, de la notion d'imaginer de l'intérieur, on peut revenir au débat et voir les débats autrement. Et comme je vous ai déjà dit, j'aimerais en fait, prendre le débat de l'empathie pour vous montrer cela. Parler d'empathie, en fait, ça veut dire qu'on se pose une question quand même sûrement liée au soi. Parce que l'idée, c'est que quand on est en train d'empathiser, on se met à la place d'autrui. Donc là, il y a quand même ces pas qu'on ira faire. Mais après, l'idée, c'est de voir comment toutes les autres dimensions ont un rôle à jouer dans le contexte de l'empathie. À nouveau, j'aimerais partir avec un exemple. Il y a ces sociologues, Sam Richards, à la Penn University State, qui a donné un TEDx très, très visualisé sur Internet, si vous avez le temps, allez les regarder, c'est vraiment puissant, où il propose une expérience de pensée radicale en empathie. Alors, je vous lis, après je vous explique, parce que je pense que peut-être vous allez deviner ce que Sam Richards est en train de faire dans son talk. J'imagine donc ma vie si, il y a 100 ans, la Chine avait été la nation la plus puissante du monde et qu'elle était venue aux États-Unis à la recherche de charbon. Et en fait, ils en ont trouvé beaucoup ici. Et très vite, ils ont commencé à expédier ces charbons vers la Chine et ailleurs dans le monde. Et ils sont devenus fabuleusement riches en les faisant. Et ils ont construit des belles villes toutes alimentées par ces charbons. Et ici, nous avons vu le désespoir économique, la dépravation. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui luttaient pour s'en sortir, ne sachant pas ce qui s'est passé et ce qui allait se passer. Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si vous étiez à ma place? Pouvez-vous imaginer sortir de ce bâtiment et voir un char là-bas ou un camion plein de soldats? Imaginez ce que vous ressentiriez, parce que vous savez pourquoi ils sont ici et vous savez ce qu'ils font ici. Et vous ressentez juste la colère et la peur. D'accord? Si vous le pouvez, c'est de l'empathie. Vous avez quitté vos chaussures et vous vous êtes mis dans les miennes. Et vous devez le ressentir. Alors, le contexte est facile à expliquer. Donc, Richards est en train d'offrir à son public, un public de Nord-Américains, il faut bien le garder dans la tête, un présent dystopique. Un présent dystopique, alors le talk a été donné en 2010. Il y avait encore la guerre en Irak. Donc, ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est de construire un présent dystopique où ce que les États-Unis sont ici, c'est l'Irak dans la vérité. Ce que la Chine est dans l'exemple, c'est les États-Unis dans la vérité. Ce que le charbon est ici, c'est le pétrole, en fait, dans le monde actuel. Et évidemment, grâce à cette expérience de pensée, il cherche effectivement à rendre son public empathisant avec ce qui se passe en Irak. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, c'est vraiment très long. Hein. Là, je suis vraiment hyper coupée, donc je vous invite vraiment à nouveau à regarder la vidéo. Là, c'est un premier pas, parce qu'en fait, après, il continue son exercice imaginatif et il propose quelque chose, entre guillemets, de plus fort. C'est ça, la vraie expérience radicale, d'après Richards. Il demande vraiment de se mettre à la place d'un arabe musulman vivant au Moyen-Orient à ce moment-là, donc pendant la guerre en Irak. Et il dit, peut-être vous êtes un membre de cette famille et de la classe moyenne à Bagdad. Sont-ils des tueurs brutaux ou des défenseurs patriotiques? Sentez-vous leur colère, leur peur, leur rage face à ce qui se passe dans leur pays? Pouvez-vous imaginer que l'un d'entre eux, le matin, s'est penché sur son enfant et l'a serré dans ses bras et lui a dit « Chérie, je reviendrai plus tard. Je sors pour défendre votre liberté, vos vies. Je sors pour veiller sur nous, sur l'avenir de notre pays. » Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer dire ça? Pouvez-vous être là? Que pensez-vous qui ressentent? Voyez-vous, c'est de l'empathie. Et à nouveau, j'ai vraiment coupé parce qu'il donne tellement de détails, je pense, pour essayer de faire en sorte que cette empathie, en fait, se déclenche, si vous voulez. Mais donc, avec cet exemple dans la tête, on va y revenir. Faisons les philosophes. Donc ici, c'est ce que Ray Langton, philosophe, a dit pour décrire, en fait, ce qui est nécessaire pour empathiser. Donc, elle nous dit, l'empathie implique un changement dans la phénoménologie, car j'adopte un point de vue de l'intérieur, par exemple en saisissant de manière vive et qualitative ce que c'est que de souffrir comme mon frère souffre. Et elle implique un changement d'emplacement du soi, self-location, elle dit, car l'indexical je se déplace vers la situation de mon frère, ou peut-être vers mon frère lui-même. Donc, ce que Langton, en fait, suggère, c'est qu'on a deux caractéristiques importantes quand il y a de l'empathie. Il y a cette idée de point de vue de l'intérieur. Là, elle n'est pas en train de parler d'imagination, mais dans l'article, elle en parle. Donc là, c'est vraiment l'imagination de l'intérieur qui est en jeu. Et après, il y a cette question du changement d'emplacement du soi. Donc, on a vraiment ces deux aspects. Et j'aimerais dire juste un mot par rapport aux premiers aspects et puis passer un peu plus de temps sur cette question de l'intérieur, qui est ce qui m'intéresse le plus ici. Donc là, il y a une petite vignette rigolote. Vous pouvez lire ce qui se passe. OK. Donc, si on a les deux personnages, John et Paul, l'idée c'est que, effectivement, vraiment pour se mettre à la place de l'autre, John peut essayer en fait d'imaginer deux choses différentes. D'une part, en fait, il peut essayer d'imaginer ce que il, John, ressentirait s'il était dans la situation de Paul. De l'autre, c'est que il peut essayer d'imaginer vraiment ce que Paul ressentirait. Ça, vous voyez, c'est exactement ce que Lanton disait, non ? Car l'indexical « je » se déplace vers la situation de mon frère ou peut-être vers mon frère lui-même. C'est vraiment ces deux cas. C'est ce que Gordon a appelé « egocentric shift » ou « ajustement du soi ». Donc ça, c'est important parce que, en général, je veux dire, je ne parlais pas vraiment en détail de ça, mais c'est une question qu'on peut se poser si cet ajustement est nécessaire, en fait, quand nous empathisons. Ou si peut-être seulement se mettre dans la situation, au moins dans certains contextes, est utile ou quand même suffisant pour empathiser. Peut-être c'est aussi un peu ça qui est en jeu dans l'exemple que je vous ai donné de Richards, ou le jeu entre les deux exemples, en fait. Mais passons à ce qui m'intéresse le plus, comme je disais. Donc cette idée de point de vue de l'intérieur, parce que là, on a l'imagination de l'intérieur. Et on a vu qu'en fait, on a vu trois sens d'imaginer de l'intérieur. Alors, ce que Lanton dit, parce qu'elle nous dit, par exemple, en saisissant de manière vive et qualitative, ce que c'est que de souffrir comme mon frère souffre. Là, l'idée, c'est qu'il semble qu'elle est en train de suggérer qu'on devrait viser plutôt les interprétations phénoménologiques d'imaginer de l'intérieur, soit celle large, soit celle étroite. Mais dans le papier, il parle aussi de l'idée d'imaginer de l'intérieur comme impliquant le soi de manière implicite. Donc on a effectivement les trois. Donc essayons de voir vraiment quel est le rapport entre les trois notions d'imaginer de l'intérieur avec le cas de l'empathie. Et donc commençons avec la perspectivalité des soi imaginés. Revenons au cas de Richards. Alors, je pense, mais à nouveau, là, il y a seulement un détail de l'exemple, mais j'ai l'impression que dans cette expérience de pensée, peu importe si le soi imaginé est impliqué de manière explicite ou implicite, ou bien on a un jeu entre les deux. J'ai l'impression que quand Richards demande, par exemple, d'imaginer sortir du bâtiment, voir le char, on peut faire les deux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vraiment voient leur même dans la scène ou on est en train de faire les mouvements. Un peu exactement comme le débat qu'on a vu au début par rapport au film « Je veux juste en finir », non ? Le père du compagnon de la jeune fille, il veut à tout prix voir des sujets dans la scène imaginée pour éprouver, parce que c'était ça, non ? Si vous vous en souvenez, c'est une question d'éprouver des émotions. Mais d'autres, peut-être, qu'en fait, sont plus à l'aise en prenant le point de vue où le soi est représenté de manière implicite. À nouveau, en faisant pas vraiment de tests, mais en proposant ça à des étudiants, j'ai vu que ce qui est important, c'est vraiment jouer entre les deux perspectives, donc pas seulement une perspective unique. Donc là, l'idée, c'est que je pense qu'on peut en tirer que dans le cas de l'empathie, peu importe si le soi est représenté de manière implicite ou explicite, ou c'est bien de jouer avec les deux perspectives. Ce qui veut dire que si on revient à ce que Langton dit, là, de l'intérieur, il ne faut pas forcément le prendre comme l'idée que, imaginer de l'intérieur, c'est représenter le soi de manière implicite. Mais donc, il y a deux autres sens liés aux expériences imaginées. Bah, c'est clair qu'on a les sens larges, parce que quand on empathise, on est en train de recréer tout un tas d'expériences. Donc là, imaginer de l'intérieur, c'est sûr que ça veut dire imaginer de manière récréative ou expérientielle. Mais on peut se poser la question si on a plutôt besoin d'imaginer expérientiellement seulement en recréant des expériences internes, que c'était notre troisième interprétation d'imaginer de l'intérieur. Là, à nouveau, si on reprend le cas, les deux cas en fait, de Richards est en train de jouer avec toutes sortes d'expériences. Donc il y a à la fois des expériences externes, à la fois des expériences internes. Il parle des visions, auditions, mais c'est sûr qu'il parle aussi de mouvements, donc de proprioception. Évidemment, il parle des émotions et on a vu que les émotions, c'est quand même un cas compliqué, mais quand même, c'est un cas où effectivement on a du corporel, donc on a des expériences internes en fait qui sont recréées. Imaginer dire, donc même imaginer dire est complexe, non? Parce qu'on a l'audition, mais on a aussi le mouvement de la bouche, si on veut, quand on parle. Donc, je dirais qu'on a les deux. Mais à nouveau, dire qu'on a les deux, peut-être ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut avoir de l'empathie ou on est en train de recréer seulement des expériences externes, sans des expériences internes? Donc là, pour l'instant, ce que je suis en train de suggérer, c'est qu'on a à la fois imagination subjective et objective. Mais cette question que je viens de poser, donc, nous impose de voir si on peut avoir de l'empathie seulement avec de l'imagination objective, sans de l'imagination subjective. Parce que l'idée, en gros, c'est que nous pourrions faire le bon ajustement égocentrique, à nouveau, en supposant que ce soit nécessaire de faire cet ajustement égocentrique, mais recréer imaginativement seulement les expériences externes de l'autre. Donc, par exemple, nous pouvons imaginer adopter le point de vue visuel de l'autre et essayer de comprendre ce qu'il est en train de voir. Mais l'idée serait que ce n'est que si nous recréons au moins une partie, et je dis une partie, après justement c'est débattable, mais au moins une partie des expériences internes de l'autre, que nous adoptons imaginativement une perspective qui ne peut être que la sienne. Et donc, c'est ça qui nous amènerait à faire vraiment le bon ajustement égocentrique. Parce que vous vous rappelez, l'idée c'est qu'on se déplace, soit je me déplace dans la situation de l'autre, mais je peux tenter de me déplacer en fait dans l'autre. Mais donc, pour me déplacer dans l'autre, l'idée c'est que je dois adopter un point de vue qui est propre vraiment à l'autre personne. Et l'idée c'est que recréer des expériences internes nous garantirait ça. Parce que l'idée c'est que les expériences internes, vraiment, sont une perspective qui peut être seulement celle de l'autre. Voire même, et là ça devient justement compliqué, l'idée ce serait que les expériences internes, en fait, ne peuvent pas être partagées, à la différence des expériences externes. Juste pour vous dire, là, moi, j'ai une expérience visuelle d'un certain type. Mais en fait, si quelqu'un d'autre venait à ma place ici, verrait plus ou moins la même chose. Évidemment, il faut qu'il se mette à ma taille, OK? Et peut-être il y a aussi des problèmes visuels. Mais en ajustant tout cela, l'idée, c'est que cette personne verrait la même chose. Donc, on peut partager plus ou moins la même expérience visuelle. Mais avec des expériences proprioceptives, kinesthésique, agédonique, sentiment d'agentivité, là, ça devient plus compliqué. Mais donc, effectivement, si on ne peut pas les partager, effectivement, on peut se poser la question si on peut aussi essayer d'imaginer une expérience interne de quelqu'un d'autre. C'est aussi pour cela que j'ai mis au moins une partie. Parce que peut-être qu'on peut quand même essayer, au moins en partie, de recréer l'expérience interne de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ce qu'on a suggéré Jérôme de Kitsch et moi, nous avons suggéré que dans l'empathie, on aurait nécessairement besoin au moins d'un petit bout d'imagination subjective. On ne peut pas s'appuyer seulement sur l'imagination objective. Et on a essayé de montrer que tout cela est aussi très important si on garde à l'esprit qu'on a aussi une dynamique imaginative. Je veux dire, on commence... Tout à l'heure, je rappelais que les exercices imaginatifs sont complexes. Sont complexes autant T. Je veux dire, à un moment donné, je suis en train d'imaginer un tas de choses. Mais ils sont complexes aussi sur les temps, en fait. Parce qu'il y a une dynamique, en fait, de nos projections imaginatives. Et un état de l'imagination peut, en fait, donner lieu à un autre état de l'imagination. C'est pour cela donc, que nous avons suggéré que recréer une perspective interne, par exemple sur la douleur de quelqu'un d'autre, donnera spontanément lieu à d'autres états imaginatifs subjectifs impliquant la recréation des conséquences, par exemple mentales, de la douleur chez l'autre. Mais l'imagination objective d'une autre personne qui souffre se développera probablement dans des directions différentes. Plus généralement, quelqu'un qui serait capable de recréer seulement des expériences externes de la douleur serait aveugle aux conséquences internes. En revanche, l'imagination subjective promet de donner une meilleure prise sur la vie intérieure de l'autre à mesure qu'elle se déroule dans le temps. Mais, à nouveau, je répète, là, il y a une question énorme qui s'est déjà posée et que je vais la poser de manière plus explicite, sommes-nous vraiment capables de détacher complètement notre imagination de notre propre soi et ainsi d'habiter pleinement celui d'autrui? Donc, déjà, c'est la question justement de l'ajustement égocentrique, si vous voulez. Mais cette question, qui est une question très débattue dans le débat sur l'empathie, il y a des auteurs qui pensent effectivement que ce n'est pas possible, donc ils sont sceptiques sur l'empathie en général ou sur la portée épistémologique en fait de l'empathie. Ce que je pense, ou j'espère d'avoir montré, c'est que cette question a aussi une portée différente une fois qu'on a clarifié la notion d'imaginer de l'intérieur un jeu. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de détacher notre imagination de notre propre soi. C'est une question seulement de représentation du soi, c'est une question des expériences que nous sommes capables de recréer, et quelles expériences nous sommes en train de recréer et lesquelles nous sommes capables de recréer. Donc, si on prend juste le dernier bout, donc, l'idée, c'est qu'on aurait besoin de recréer des expériences internes du sujet. Mais effectivement, la question, donc, dans ce sens-là, elle nous impose de comprendre à quel point on est capable de recréer les expériences internes de l'autre. À nouveau, une voie possible, c'est de dire qu'au moins en partie, on est capable, mais le débat est vraiment ouvert. Donc là, ce que j'ai essayé de suggérer, c'est des pistes, en fait, des recherches. À nouveau, mon but était d'abord de vous convaincre que la notion d'imagination de l'intérieur est beaucoup plus complexe par rapport à ce que les auteurs pensent, et d'autre part, de montrer qu'une fois qu'on a une notion de l'imagination de l'intérieur plus claire et plus riche, voire même, on peut enrichir les débats où elle est employée. Et merci de votre attention.